Des sous et des hommes. Une émission de Pascal Fourier. Notre invité aujourd'hui.
Alors, je suis Alain Caillé, je suis professeur de sociologie à l'université Paris 10 Nanterre. Il m'est arrivé d'être économiste dans ma jeunesse folle et lointaine. Et je suppose que si vous m'invitez aujourd'hui, c'est parce que j'anime la revue du MOUS, c'est une revue, ça, c'est le nom signifie revue du mouvement anti-utilitariste en sciences sociales. C'est également un hommage à Marcel Mauss, l'anthropologue, le neveu de Durkheim. C'est une revue interdisciplinaire en sciences sociales, économie, sociologie, philosophie, publiée aux éditions La Découverte, et qui a publié il y a quelques mois un numéro qui est peut-être assez directement lié au thème de l'émission aujourd'hui, qui s'appelle « Quelle autre mondialisation ?».
On parle beaucoup ces derniers temps d'une guerre possible à venir contre l'Irak, mais on pourrait aussi parler de guerre économique qui finalement sévit journellement de par le monde. Il semblerait que l'impératif catégorique de toute politique, politique économique mais pas seulement, soit devenu la compétitivité internationale. Et j'aurais bien voulu savoir quelle conception de la société était sous-jacente à ce nouvel impératif.
Nouvel impératif, il a quand même une bonne vingtaine d'années, 20-25 ans. Il s'est exacerbé. Si j'ai bien compris, ça sera le thème central de la discussion que vous aimeriez qu'on ait, qui sera nécessairement, je crois, une discussion un petit peu, peut-être pas à bâton rompu, mais un petit peu intuitive, parce que je vous l'avais dit quand on s'était eu au téléphone, je n'ai aucune idée arrêtée sur la question. Mais en y réfléchissant dans le métro tout à l'heure avant de venir vous rejoindre, je me suis dit quand même qu'il était peut-être nécessaire de faire une sorte de petite déclaration au préalable, avant d'entamer la discussion, pour dissiper quelques équivoques possibles. Lorsqu'on dénonce la société de compétitivité, on peut avoir tendance à dire la compétitivité, la rivalité, c'est mal, de manière générale, et à mettre en scène l'espoir d'une société humaine plus fraternelle, plus solidaire, plus communautaire, etc. Je crois que si on raisonnait comme cela, on se fourvoierait et on ne serait pas en mesure de bien poser la question. Donc la déclaration liminaire, un petit peu, non pas solennelle, mais un peu pompeuse que je voudrais faire, consisterait à dire que bien la compétitivité n'est pas, ou la rivalité là, n'est pas un mal en soi, n'est pas intrinsèquement répréhensible ou regrettable. L'homme est un animal compétitif. L'homme est un animal qui rivalise, comme d'ailleurs les animaux, qui rivalisent aussi entre eux, à qui mieux de plumes, de nageoires, de coups de patte, etc. Bon, voilà une première déclaration. L'homme est un animal qui rivalise, qui aime à rivaliser. Marcel Mauss aurait dit un animal agonistique, qui aime pratiquer l'agone, justement cette rivalité. Et d'ailleurs, la rivalité est tout à fait nécessaire à l'individuation. On ne peut pas à la fois revendiquer d'être un individu singulier, reconnu dans sa singularité, et prétendre ne pas vouloir rivaliser. Alors, voilà une première considération générale qu'il faut immédiatement nuancer ou commenter par trois séries de considérations. Premier commentaire, l'homme est un animal qui rivalise, mais il n'est pas qu'un animal qui rivalise, il fait aussi autre chose. C'est également un animal qui coopère, comme d'ailleurs certains animaux. C'est un animal aussi qui aime ou qui déteste, c'est un animal qui obéit ou qui commande. Bon, il y a toutes ces composantes dans l'activité humaine. Deuxième série de considérations, la question donc, si on dit l'homme est un animal qui rivalise, même s'il n'est pas seulement cela, si on dit l'homme est un animal qui rivalise, à ce moment-là la question qui se pose n'est pas tant de savoir s'il faut critiquer ou pas la rivalité, mais de savoir quelles sont les rivalités utiles, bénéfiques, souhaitables et quelles sont celles qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, il faut commencer à faire des distinctions et on va commencer à rejoindre progressivement d'autres sujets. Disons que c'est pas tout à fait la même chose de rivaliser à celui qui gagnera le plus d'argent possible ou de rivaliser à celui qui sera le plus beau, le plus superbe, le plus splendide, ou à celui qui sera le plus généreux, ou à celui qui sera le plus saint, S-A-I-N-T, ou le plus dispensateur d'amour, le plus solidaire, etc. Donc voilà une deuxième série de considérations qui, je crois, permettent de baliser un petit peu la discussion qu'on va essayer d'avoir. Et puis la troisième série d'idées qui me venait dans le métro en arrivant à la station Nation, c'est que cette rivalité qui n'est pas intrinsèquement répréhensible, elle ne peut être à encourager que pour autant qu'elle est régulée, qu'elle n'est pas n'importe quel type de compétitivité. Réguler, ça veut dire d'une part qu'il faut qu'il y ait des règles, on voit ça dans n'importe quel jeu, dans n'importe quel sport. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de sport sans règles. Sans ça, il n'y a que du chaos, et plus précisément, je crois qu'il est important de savoir à quel jeu on joue, c'est une première chose, que les gens puissent se repérer, et il faut savoir à quel jeu on joue, il faut éventuellement que ceux qui perdent dans un jeu puissent jouer à d'autres jeux, donc il faut qu'il y ait une multiplicité des espaces de rivalité, et non pas un seul champ de la rivalité, et puis enfin, je crois que la règle de tout esprit de jeu, que moi je crois... un esprit souhaitable à développer, l'esprit ludique. La règle, c'est qu'il ne doit pas y avoir appropriation de la victoire par le gagnant d'une partie déterminée. Il faut qu'il y ait remise en jeu permanente de la victoire. Il faut qu'il y ait possibilité offerte aux vaincus de prendre leur revanche, en quelque sorte, ou de gagner dans d'autres jeux. Puis plus généralement, je crois qu'il faut que, et ça c'est un peu la ruse de l'histoire, ou la ruse de la société, il faut que cette rivalité... qui désigne des gagnants et des perdants, ne masquons pas la réalité, il faut que cette rivalité, au bout du compte, serve au plus grand nombre, serve à la collectivité dans son ensemble, et notamment aux plus démunis ou aux plus faibles. C'est le paradoxe, il faut que la lutte entre les plus forts, au bout du compte, serve les plus faibles.
Ça n'a pas l'air d'être vraiment ce qui se passe dans l'univers économique et politique actuel, non ?
Eh bien, c'est apparemment pas tout à fait ce qui se passe. Alors, si on suit le raisonnement que j'ai esquissé là, on pourrait dire que ce qui est problématique dans l'espace, dans la logique qui se met en place depuis une vingtaine d'années, c'est pas le fait qu'il y ait de la compétitivité en tant que telle, que ce soit entre les individus ou entre les pays. Mais est-ce qu'il y a compétitivité entre les pays ? J'y reviendrai, c'est une de vos questions, et je crois qu'il faut y revenir. C'est pas le fait de la compétitivité qui est problématique. Ce qui est vraiment problématique, c'est qu'il n'y a plus qu'un seul jeu, d'une certaine façon, qui englobe tous les autres jeux. Et ce jeu, c'est le jeu du marché, bien sûr, c'est le jeu du gain en capital, avec une appropriation des gains qui devient absolument vertigineuse par les gagnants. Bon, tout le monde le sait, tout le monde connaît les chiffres qui illustrent l'explosion des inégalités, soit au sein des pays, soit entre les pays depuis une vingtaine d'années. Je suis tombé récemment sur un chiffre que je trouve particulièrement intéressant, particulièrement parlant. Il y a une trentaine d'années, l'écart de rémunération moyenne entre les 100 patrons américains les plus riches et un salarié ordinaire de leurs entreprises était de 1 à 39. Et en 25 ou 30 ans, cet écart est passé de 1 à 1000. Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui résume, vous voyez, plus que les écarts de capital, de patrimoine. Je trouve que c'est un chiffre qui illustre l'extraordinaire creusement des inégalités au sein dans des univers où avant les gens avaient l'impression de participer du même ordre, ils étaient ensemble dans l'entreprise, d'accord, il y avait des patrons, etc. Mais on restait dans une certaine forme de commune mesure. Là, on n'est absolument plus dans la commune mesure. Donc effectivement, ce qui est problématique, c'est deux choses. C'est que tous les jeux qui étaient des jeux différents jusqu'à présent, le jeu de la culture, le jeu de la littérature, les jeux sportifs, le jeu du politique, tous ces jeux deviennent maintenant des sous-ensembles, des sous-jeux du seul jeu économique. Donc il y a un jeu qui colonise, qui phagocyte tous les autres, premièrement. Deuxièmement, il phagocyte tous les autres en produisant une gigantesque accumulation de la puissance qui n'est absolument plus réversible et donc qui ne revient plus vers les communautés et qui bien sûr ne sert absolument plus à soulager le sort des plus mal placés.
Il y a quelque chose que je comprends pas trop bien, c'est comment c'était finalement avant ? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une logique qui se mettait en place depuis environ 20-30 ans, mais avant c'était quoi justement le jeu ou comment ça fonctionnait ?
Le jeu, c'est le jeu qui s'est mis en place après à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que l'économiste hétérodoxe Karl Polanyi a rassemblé sous l'appellation de grande transformation. La grande transformation, c'est ce qu'il appelait le réencastrement du marché. dans des règles, dans tout un appareil de règles politiques, éthiques, etc. C'est ce que les économistes de la régulation appellent le compromis fordiste, et qui correspondait à la période, on pourrait dire, social-démocrate et de gestion keynésienne de l'économie. C'est cette société qui a fonctionné jusque vers les années 1980, qui a commencé à se désagréger au moment où elle semblait atteindre son paroxysme, c'est-à-dire vers 1970. Je prends 1970 parce qu'on l'oublie trop. Ce n'est qu'en 1970, je crois, qu'ont été créés les contrats de travail à durée indéterminée. Que donc on est arrivé à cette institutionnalisation du salariat avec toute une série de droits, de protections. Et cette situation sociale semblait, à des tas d'égards, l'aboutissement d'un processus de civilisation de longue durée et de démocratisation. Tout le monde, tout être humain dans les sociétés développées était un salarié ou un quasi-salarié et avait à ce titre des droits, des garanties, des protections. Et c'est ce modèle-là qui a commencé à s'effriter et puis à s'affaisser à partir des années 1980, pour donner place à ce dont nous parlons, c'est ce monde de compétitivité généralisée.
Est-ce que ça veut dire que, enfin, j'ai lu un de vos articles et vous sembliez dire qu'il y avait avant une espèce de mise au service de l'économie vers l'ensemble de la société. Est-ce que c'est aussi ce changement-là qui est capital dans la nouvelle architecture économique qui se met en place?
Oui, tout à fait, puisque le compromis fordiste, ce que Polanyi appelait la grande transformation, le réencastrement de l'économique, bien, il instaurait un couplage très clair entre le fonctionnement de la machine économique qui légitimait le marché, qui légitimait de gagner de l'argent sur le marché, mais qui prélevait suffisamment pour faire en sorte que personne ne bascule dans la misère ou dans l'exclusion, à condition d'intégrer cette condition salariale, et sauf cas pathologique très très particulier, bah, tout le monde effectivement était salarié. On faisait, et c'est ce qui donnait sa cohérence à cette société, et ça donnait sa cohérence au système scolaire, qui est en train lui aussi de se désagréger. On faisait des études, pas pour passer le temps, mais pour obtenir un emploi. On s'établissait, on se mariait, on fondait un foyer, un ménage, à partir du moment où la situation professionnelle était suffisamment clarifiée. On cotisait en fonction de son salaire pour se protéger contre maladie, et la maladie contre des chômages occasionnels, des chômages à l'époque frictionnels. Et la retraite était assurée. Et tout le monde participait, ou devait, ou s'apprêtait à participer de ce système. C'est cette cohérence globale qui s'est cassée pour différentes raisons à partir des années 70.
Mais cette espèce de ce compromis fordiste, si on peut dire, avait été obtenu dans quelles circonstances? Parce qu'à la limite, ça n'a rien de naturel qu'on soit aussi attentif au bien-être.
Ben, on le voit bien, rien n'est véritablement naturel. Je crois qu'il y a des phases de... d'alternance de pouvoir des plus puissants ou des moins puissants. Le chiffre que je citais tout à l'heure là sur l'explosion des inégalités entre salariés ordinaires et puis grands patrons rappelle en fait la situation qui prévalait aux alentours des années 1900, juste avant la guerre de 14-18. On est en train de retrouver le degré d'inégalité économique qui prévalait à la belle époque, comme on disait.
Des sous et des hommes, et encore comme d'habitude, je comprends pas toujours tout ce qu'on me dit, j'ai l'impression que finalement qu'on est passé d'un état à l'autre, d'une régulation fordiste à une absence de régulation, peut-être faudrait-il dire libérale, à cause d'un rapport de force qui aurait changé. Mais quelle serait exactement la nature de ce rapport de force? Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, mais il y a deux choses dans votre observation. D'abord, je sais que vous voulez me faire dire qu'il y a eu un changement de rapport de force et que tout ça, ça s'est pas opéré ça s'est pas fait par l'opération du Saint-Esprit, que ça ne tombe pas du ciel, ces changements. Ben, bien sûr, il y a des forces qui s'affrontent dans l'histoire, dans les sociétés, avec des tensions, des équilibrages et puis parfois des déséquilibres. Il me semble que là, nous sommes en train de vivre une période de déséquilibre exacerbé, une période d'apparition de l'hyperpuissance qui est à la fois une hyperpuissance économique. Et on a vu l'illustration avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, c'est aussi une hyperpuissance avec les États-Unis militaires, diplomatiques, on est en plein en train de vivre les effets de cette hyperpuissance. Donc il y a des rapports de force, cet accord, ça évolue, ça change, aucune situation n'est stable, et c'est important de le rappeler, parce que, surtout pour les gens de ma génération, Parce que effectivement, c'est ce que j'essayais de suggérer tout à l'heure, dans les années 70, il paraissait rigoureusement inimaginable à qui que ce soit qu'on allait sortir de la logique qui prévalait à l'époque, qui était une logique de démocratie parlementaire fonctionnant bon an mal an à peu près, et cette logique de protection sociale généralisée. Je crois que ça durait, en fait, quand je dis années 70, ça durait plus longtemps que ça. Je crois que l'aboutissement de cette période, son acmé en quelque sorte, son apothéose, ça a été l'instauration du RMI en 1988-89, qui, on l'a mal compris à l'époque, mais comme quand je m'intéressais à la question, j'étais un observateur assez attentif. Lorsque le RMI a été créé par le gouvernement de Michel Rocard, presque tous les Français ont considéré qu'il s'agissait de la création d'un revenu minimum inconditionnel, ce que n'est pas devenu le RMI après, création d'un revenu minimum inconditionnel, et ça paraissait le bon sens même à tous les Français, donc il n'y a pas longtemps, en 88, c'était l'aboutissement de la révolution des droits de l'homme. Enfin, fondamentalement, il était clair que personne ne pouvait être exclu d'un stock de droits minimaux, à finir plutôt, c'est le dernier, par des droits économiques. Je sais que vous n'êtes toujours pas satisfait de ce que vous dites, donc à vous la parole.
Mais justement, pourquoi quel est le rapport de force qui a changé?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, ça devient extrêmement difficile de l'expliquer, sauf à dire qu'il y a eu des méchants qui ont gagné, ce qui est en partie le cas. Mais le problème, c'est que c'est des méchants qui pensent qu'ils sont gentils. Et donc tout ça est un petit peu mélangé. Je crois qu'il y a deux, trois choses qui se sont conjuguées, si on essaie d'aller à ce qui me paraît être le plus important. D'une part, de toute évidence, l'effondrement du bloc soviétique, du bloc qui prétendait incarner le socialisme, autrement dit l'autre du capitalisme, ben cet effondrement, cette auto-liquidation, cette auto-réfutation, a quand même porté un sacré coup à tout l'imaginaire de gauche. Et on en voit encore les contre-coups aujourd'hui, puis cet imaginaire de gauche a quand même quelques difficultés à se recomposer. Alors cet imaginaire de gauche ne se limitait certainement pas au marxisme, mais quand même le marxisme en était le ferment le plus aigu. En Europe occidentale, il y avait des pratiques social-démocrates, mais au fond, pas d'idéologie social-démocrate. Donc c'est un autre aspect de la question. Effondrement du bloc soviétique. Et avec cet effondrement, on s'aperçoit que, au fond, il n'y a pas de souffle dans la pensée politique social-démocrate. Cette pensée, cette pratique social-démocrate est extraordinairement utile et bénéfique à des tas d'égards, mais disons qu'au minimum, elle ne suscite pas de passion. Et donc, il me semble que, car c'est tout à fait important d'être protégé contre la maladie, contre une certaine détresse matérielle, mais c'est pas pour avoir des protections qu'on se passionne. C'est des passions, en tout cas, au minimum négatives, pas des passions actives. Et donc, avec cet effondrement du marxisme, on s'est retrouvé face à un manque de soutien passionnel à la gauche et au programme social-démocrate. C'est une deuxième composante. La troisième, qui est quand même tout à fait importante, je crois qu'on ne le dit pas assez, c'est que nous étions sortis des 30 glorieuses, autrement dit de 30 années de croissance économique à quasiment 5% en moyenne en France, et qu'à partir des années 80, on va tomber à du 1,5-2% en moyenne. Ça change considérablement la donne. C'est comme les jeux de la chaîne, vous savez, on cherche toujours de nouveaux partenaires pour la chaîne. Ben, à partir du moment où la croissance se ralentit, toute la promesse démocratique, ou la promesse social-démocrate, ben, devient de plus en plus difficile à tenir. Alors ça, c'est pour le versant négatif. Il y a un camp qui s'écroule petit à petit, idéologiquement, qui se décompose socialement parce que la classe ouvrière ne représente plus le poids qu'elle avait jusque-là. Et puis, en face, ben, il y a au contraire une idéologie de droite, conservatrice, libérale, c'est la révolution conservatrice, la contre-révolution conservatrice, en quelque sorte néolibérale, qui se recompose avec résurgence de thèmes qu'on pouvait croire complètement démodés. Cette valorisation à tout craint du libre marché et qui se recompose. Alors d'abord à travers des cénacles ou des cercles académiques, notamment la Société du Mont-Pèlerin, qui va donner les sommets de Davos, et puis qui trouve petit à petit des relais que nous connaissons tous, des relais politiques de Margaret Thatcher ou de Ronald Reagan.
Mais est-ce que maintenant, enfin, tout à l'heure vous avez parlé, je vais prendre par ce biais-là, de méchants qui se croient gentils finalement.
Oui.
Est-ce que, enfin, il y a certaines personnes qui pensent que la mondialisation libérale qui s'est mise en œuvre, finalement, est l'œuvre de méchants et en particulier de multinationales qui s'appuieraient ensuite sur les gouvernements ou feraient pression sur les gouvernements. Est-ce qu'on peut garder cette optique-là? Est-ce que c'est une optique pertinente? C'était finalement du méchant, voilà. Est-ce que c'est, il y a un méchant? Ou est-ce que c'est plus complexe que cela?
Ben, je crois que bien évidemment, j'ai essayé de suggérer que c'était un petit peu plus complexe que cela. Qu'il y a en fait une conjonction de chaînes de causalité assez variées qui se rencontrent et qui produisent un certain effet. Ben, de tout temps, les patronats des grandes entreprises ont préféré avoir des salaires pas trop élevés, des syndicats pas trop puissants, des États pas trop interventionnistes, sauf pour les aider eux en cas de besoin. Mais il se trouve que cela, ça se heurtait à des forces également puissantes, et notamment à la conviction partagée par les populations entières. Les populations entières étaient keynésiennes, social-démocrates. Consciemment ou inconsciemment, toute l'intelligentsia était dans cette orbite-là. Donc il y avait du contrepoids. À partir du moment où le contrepoids disparaît, bien évidemment, il y a un bloc de pensée et de pratiques qui se répandent, et qui se répandent du point de vue de ceux qui les portent au nom du bien. Toute la pensée ultralibérale explique que, pour le dire, c'est un terme caricaturaux que j'ai employé volontairement, que les véritables méchants sont ceux qui se croient bons, à savoir les socialistes, ceux qui cherchent une protection sociale, car en faisant semblant de protéger les plus faibles, ils freinent, ils endommagent en quelque sorte la machinerie économique, et au bout du compte aboutissent à une situation économique moins bonne pour leurs protégés que celle qu'ils pourraient obtenir s'ils suivaient les recettes libérales.
Vous venez d'employer le mot machinerie économique, et justement, moi j'ai le sentiment depuis un certain temps que la recherche de compétitivité internationale finalement est une sorte de vaste machine infernale à laquelle on ne peut échapper, et qui fait par exemple que peut-être quelqu'un comme Jospin ne pouvait peut-être pas faire autre chose que ce qu'il a fait, parce qu'il était contraint d'une certaine façon par cette recherche-là. Est-ce que j'ai raison quelque part?
Oui, très, très certainement. C'est à partir du moment où cette machinerie, comme nous disions, se met en place, de la mondialisation économique, les marges de manœuvre deviennent extraordinairement restreintes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Ça serait peut-être la vraie discussion à avoir après. Mais elles deviennent très, très compliquées. Et elles enferment tout le monde, finalement, tous les gouvernements, dans une espèce de double contrainte, de double bind, si vous voulez, de truc paradoxal. C'est que, on ne sait pas si le jeu de la mondialisation économique est bénéfique pour les pays qui sont pris dedans nécessairement, mais ce que l'on sait, c'est que si on essaie d'en sortir, ça sera en tout cas catastrophique, en raison de toute une série de représailles, soit volontaires, soit automatiques de la part du marché. Si bien qu'on arrive à ce paradoxe suivant, c'est que cette mondialisation économique sape la souveraineté économique des États, mais en même temps, pour essayer de conserver un petit peu de souveraineté économique, les États sont quand même obligés de jouer le jeu de la mondialisation, qui justement sape leur souveraineté économique. Je crois que c'est ça le piège infernal, en quelque sorte, dans lequel nous plonge cette mondialisation économique qui fait système. Et qui fait qu'on ne peut que surfer avec elle et essayer de s'en affranchir à la marge, mais qu'on ne peut pas l'affronter directement.
C'est ce que signifie le mot système. Est-ce que vous pourriez approfondir un petit peu ce mot-là?
Approfondir le mot système? Ça c'est vache comme question. Je crois que dans l'idée de système, il y a simplement cette idée d'interdépendance généralisée, si vous voulez, de tous les éléments qui participent d'un même ensemble. Ils forment système parce que tous les éléments se renvoient les uns aux autres avec des effets de rétroaction, de feedback. Et si bien que même si on change un des éléments du système, ben comme sa portée, sa place est définie par son rôle dans le système, de toute façon, il y a un élément comparable qui renaîtra à sa place. Donc c'est une forme du destin, finalement.
Ouais,
Et au destin, on peut échapper, quand même.
C'est assez terrible. Je pense qu'on, la semaine prochaine, puisque vous me faites le plaisir de revenir, on pourra peut-être essayer de trouver quelque chose de plus positif, peut-être, à dire, chercher des solutions. D'ailleurs, le livre que enfin le livre officiellement c'est censé être un cahier, comment le...
Une revue, c'est le numéro 20 de la revue du MOS.
Du MOS, qui a pour titre « Quelle autre mondialisation ?» Je disais livre parce que c'est un très très gros bouquin.
C'est une grosse revue.
Mais extrêmement passionnante.